Il est nouveau dans le paysage politique parce que même s'il est maire de Davao depuis 22 ans, il est un peu anti-système ou anti-establishment. La vie politique et économique des Philippines est dominée depuis des décennies, voire des siècles, par quelques grandes familles. Et ce sont ces grandes familles qui, clairement parlant, sont au pouvoir. L'exemple le plus frappant est le président sortant, Benigno Aquino, et le fils de Corazon Aquino, qui elle-même était l'épouse de Aquino, qui avait été tué à sa descente d'avion lorsqu'il rentrait d'exil sous la dictature Marcos. Donc on est vraiment dans ce cadre. Les grandes familles ont été pour le moment effectivement écartées de la présidence. C'est un personnage nouveau, haut en couleur. Alors il est effectivement, il n'a pas un langage châtié, il a un langage sans détour, des plaisanteries au goût douteux et surtout des méthodes expéditives. Et c'est là effectivement qu'il inquiète. Il inquiète parce que durant ces 22 années au pouvoir, en tant que maire de Davao, la grande ville du sud philippin, il y a ramené une sorte de paix, en tout cas de sécurité dans les rues, mais au prix d'une politique extrêmement radicale, puisqu'il a mis en place des escadrons de la mort. Et il a reconnu que ces escadrons de la mort étaient actifs sous son contrôle et que lui-même avait tué 3 personnes de ses propres mains. Il y a eu 1400 morts durant 15 ans du fait de ces escadrons de la mort, dont 132 enfants, des enfants des rues le plus souvent que le maire associe à la criminalité. Il y a une réelle inquiétude. Une certaine expectative également sur ce qu'il va effectivement être capable de mettre en place.
L'Église, évidemment, s'inquiète de certains de ses propos, notamment le rétablissement annoncé de la peine de mort. On sait que durant sa campagne, Rodrigo Duterte a aussi dit qu'il voulait un peu libérer le pays de l'idéologie de l'Église, du catholicisme, on va dire. Comment vous analysez ces propos ? C'est de la simple provocation ou c'est de l'idéologie, justement ?
Il est difficile de faire la part des choses, mais il a été très clair, effectivement, durant la campagne électorale, il a déclaré, là je le cite, « Je suis élu par le peuple et non par l'Église. Je vais faire appliquer des lois qui n'auront rien à voir avec l'idéologie catholique. » Ce sont les termes qu'il a employés. Donc l'Église catholique est un peu effectivement la conscience de cette nation. Hein. Il faut rappeler 80 à 85% des 100 millions de Philippins sont catholiques. Aux heures cruciales de l'histoire contemporaine de cette nation, l'Église a été présente. C'est elle qui a accompagné la sortie de la dictature Marcos vers une transition pacifique vers la démocratie. C'est elle qui a toujours effectivement d'une certaine manière appuyer les différents présidents qui ont été au pouvoir. Elle est un peu la conscience morale du pays. Donc là, effectivement, on a un président qui annonce clairement la couleur en disant qu'il a peur de rien et d'aucun pouvoir, et donc il perçoit l'Église catholique comme effectivement un pouvoir face à lui. Dans la ville de Davao, où il était maire, il avait mis en place des financements publics pour appliquer une loi qui avait été extrêmement controversée aux Philippines, une loi sur la santé reproductive qui avait été voté finalement après 15 années de lutte extrêmement forte de l'Église contre cette loi qui prévoyait la distribution gratuite et obligatoire quasiment de moyens contraceptifs pour la population. Eh bien, le maire à Davao avait fait appliquer cette loi dans sa ville. Donc oui, l'Église a de quoi s'inquiéter. En même temps, le président va devoir composer avec l'ensemble des institutions qui sont présentes aux Philippines. Il va devoir composer également avec celui ou celle qui sera sa vice-présidente.
Certains observateurs s'inquiètent d'un retour à la dictature. Quel rôle peut jouer l'Église philippine, justement, très, très importante en termes de pacification, de régulation sociale, si le pouvoir dérive vers un régime très autoritaire ?
La question de la dictature est soulevée, puisque lui-même, Rodrigo Duterte, le dit, hein, je serai un dictateur en matière de lutte contre le crime. Maintenant, les Philippines sont un pays dont l'économie se porte bien, dont un certain nombre d'institutions sont bien en place, notamment l'Église catholique, qui sont des contre-pouvoirs importants, mais il y a des chantiers considérables en matière de gouvernance, en matière de lutte contre la corruption, et surtout, ce à quoi a échoué le président sortant, Benigno Aquino, de résoudre la question du sud philippin, donc de la place de la communauté musulmane, qui est minoritaire dans ce sud philippin, mais qui est concentré dans ce sud philippin à Mindanao, et qui n'a pas encore trouvé sa place dans la communauté nationale. Donc il y a eu un projet de paix pour établir une certaine forme de fédéralisation, et d'ailleurs Rodrigo Duterte a parlé de fédéralisation du pays, parce qu'il y a une place trop importante de Manille et de sa région par rapport au reste du pays, donc il faut décentraliser un petit peu ce pays, et lui-même vient du sud de Davao, dans la ville de Davao, à Mindanao, et donc il sera peut-être plus, paradoxalement, en position de parvenir à une paix avec la communauté musulmane dans ce sud philippin, qui est un dossier, encore une fois, qui est crucial pour l'avenir de ce pays.